Good Morning Business, le grand débat.
8h38, c'est le grand débat avec Stéphanie Villers, économiste, conseiller économique PwC, Jean-Marc Daniel, Caroline Morici aussi qui va vous permettre de partir à la retraite plus tôt, vous allez savoir dans quelques instants. On va commencer quand même par la conjoncture, les chiffres de la conjoncture. Le FMI cette nuit qui dit qu'il n'y aura pas de récession, peut-être au Royaume-Uni, mais pas ailleurs. Et puis l'INSEE ce matin qui nous a un peu réconforté puisque finalement le quatrième trimestre français est positif, plus 0,1, alors on attendait moins 0,2. On était tout à l'heure avec Nicolas Carnot, le directeur des études économiques à l'INSEE, écoutez-le.
Il y a bien un ralentissement, un refroidissement de l'économie française, mais clairement on évite le pire, on conserve une dynamique positive de croissance alors qu'on pouvait craindre, d'ailleurs l'INSEE lui-même avait craint une petite baisse du PIB au quatrième trimestre. Donc c'est quand même mieux que prévu, une certaine résilience de l'économie française au quatrième trimestre.
Bon, on évite le pire, c'est déjà pas mal, Stéphanie Villers.
Oui, en fait, on se rend compte que le pire au niveau mondial, ça a été la crise sanitaire. Faut se rappeler quand même que c'était une pause de l'économie mondiale, c'était jamais arrivé. Et face à ça, on se rend compte qu'on a été capable de mettre en place des pare-feux. Je parle pour les grandes puissances, ce qui nous a permis en fait de passer outre. Alors maintenant, finalement, une crise énergétique,
guerre d'ailleurs,
ça nous paraît. Enfin, il y a cette résilience parce que on a échappé au pire. Je vous rappelle, on oublie vite, mais je vous rappelle que en 2020, on annonçait, on n'avait aucune visibilité, on n'avait pas de repères face à ce type de crise. C'était la première fois que ça nous arrivait. Et donc, collectivement, je parle plutôt des entreprises et des États, on se rend compte qu'on est capable, en fait, d'y faire face. Il y a une forme de résilience. Là, il y a quand même une inquiétude, c'est sur le consommateur et c'est sur les ménages qui, eux, ont véritablement peine à retrouver le moral et un climat de confiance.
Jean-Marc Daniel, on n'aura pas de récession donc l'an prochain ?
Non, je ne pense pas qu'on ait une récession, encore une fois, sauf s'il intervient un événement qui est aussi de la violence de ce qu'a été la pandémie en 2020 ou ce qu'a été la guerre en Ukraine l'année dernière. On voit bien d'ailleurs qu'encore une fois, en termes de PIB, on aura retrouvé en 2022 le même PIB qu'en 2019. Donc d'une certaine façon, on a effacé la pandémie. Simplement, entre-temps, on a une ponction qui est liée à la facture énergétique qui aura été de 80 milliards d'euros à peu près. Et donc, le véritable enjeu maintenant, c'est le retour à une normalité totale, c'est-à-dire la fin de la pandémie et la fin de l'évolution des prix de l'énergie qui ont explosé à partir de la guerre en Ukraine. Or, ces deux hypothèses, le FMI dit, il est assez probable quand même que ces deux événements sont derrière nous, donc la décrue des prix va continuer, que la Chine va normaliser sa situation. Alors, je rappelle quand même que en 2021, quand on faisait le bilan de la pandémie, ce que les institutions internationales mettaient en avant, c'était le succès spectaculaire de la réponse chinoise à la pandémie. On a vu, et donc il faut toujours se méfier sur cet aspect-là, sur ces aléas. Alors sur les fondamentaux de l'économie, l'INSEE confirme ce qu'avait déjà dit la Banque de France. Ce qui est intéressant dans ce que disent aussi bien l'INSEE que la Banque de France, c'est que à la fois les entreprises ont de moins en moins de difficultés à recruter, c'est-à-dire elles ont enfin des gens. Les entreprises qui disent avoir des problèmes de demande sont des entreprises qui sont également en recul. Les entreprises qui disent avoir des difficultés de trésorerie sont également en recul, même s'il y a quand même sur cette place un problème. Donc le bloc entreprise est plutôt relativement dans une situation assez favorable.
Sauf que la consommation, Jean-Marc, elle baisse. Donc à un moment donné, c'est la demande, c'est les marges des entreprises aussi.
Moins 3 pour les ménages.
Oui, alors en France d'abord, on voit bien qu'on a trop de demandes puisqu'on a un déficit extérieur considérable. Donc une correction n'est pas forcément totalement négative. Ensuite, la vraie croissance, elle est quand même portée par l'investissement. Les moteurs théoriques de la croissance, l'investissement, les exportations et éventuellement la politique économique. Donc là, il y a des réserves en termes d'investissement qui sont assez rassurantes. Le dernier élément sur la consommation, c'est quand on lit la note de l'INSEE, il y a un problème, ce qu'on appelle des effets Giffen. C'est-à-dire que l'inflation modifie la structure des paniers de consommation et on a du mal à après le répercuter dans l'évolution objective de la consommation. Grosso modo, on consomme de plus en plus de pâtes alimentaires et de moins en moins de viande, mais dans le détail fin, on a du mal à le mesurer. Ça veut dire simplement que les producteurs de pâtes alimentaires sont plutôt favorisés par rapport Et ce qui veut dire qu'au final, la consommation n'est pas forcément aussi concernée que ce que le chiffre brutal permet de mesurer.
Stéphanie Villers, quand même, hein, ce chiffre de la consommation qui chute, moins 1,3%, tout ce que nous dit la grande distribution quand ils viennent sur ce plateau, en nous disant que depuis le début janvier, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine, les Français consomment moins en volume, parce qu'en valeur, ça augmente toujours à cause de l'inflation. Est-ce que c'est inquiétant?
Oui. Oui, parce qu'en fait, c'est un fait nouveau, parce que ça reste quand même la consommation, on ne peut pas le mettre de côté. C'est aussi un moteur essentiel de la croissance française. Donc, sans cette composante-là, en fait, et si ça perdure, en fait, si ça. Les ménages continuent, en fait, à être effrayés et mettre de côté. Parce qu'en fait, toute la problématique, il y a quand même des solutions, parce qu'en fait, les Français consomment moins, mais mettent de côté quand même. Donc, l'argent, les liquidités sont là. En fait, il faut travailler, en fait, sur ce refléchage. C'est-à-dire que, globalement, hein, je ne dis pas que tout le monde peut mettre de côté, mais on a vu quand même que le taux d'épargne était en train de rebondir. Mmh. Et en fait, ça signifie que dans un contexte où les ménages ont perdu leurs repères, véritablement avec cette inflation galopante, ça fait 35 ans, c'est-à-dire que tous les ceux qui ont moins de 35 ans n'ont jamais connu ça, donc leur réflexe, c'est de se dire, ben, comme on ne connaît pas, on met de côté, hein, on ne sait pas du tout ce que va devenir sur nos perspectives, donc leur réflexe, c'est de mettre de côté. Donc aujourd'hui, en fait, les entreprises, elles, sont résilientes, hein, gèrent des crises depuis un certain nombre de temps, donc et ont bien vu qu'il y avait des pare-feux mis en place par les différents États et notamment la France pour faire face à ces chocs externes. Donc les entreprises, elles continuent à voir l'avenir, le long terme, même si on voit bien qu'à court terme elles restent quand même un peu effrayées. Hein, c'est par exemple l'étude de PwC, la dernière étude sur les CEO survey montre que il y a véritablement une crainte sur les 12 prochains mois. Hein. Ouais. Tout n'est pas passé, mais il reste quand même confiant sur le plus long terme.
Une sorte de déconnexion d'ailleurs entre le moral des entreprises et le moral des Français.
Est-ce que ça veut dire que les ménages sont moins résilients? C'est-à-dire qu'eux, ils sont un peu dans le noir, ils savent pas où ils sont, donc eux, contrairement aux chefs d'entreprise, ils sont fixes, ils bougent plus.
Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont complètement tétanisés le manque de repères, véritablement, et de compréhension de ce qui se passe fait que leur réflexe, c'est mettre de côté. Et je pense que ça a été enclenché en 2022. Il y a vraiment une dichotomie entre les entreprises qui continuent d'investir et les consommateurs qui craignent le pire et qui mettent de côté. Et donc, tout 2023, ça va être la capacité pour de redonner confiance à ces ménages pour essayer de stimuler la consommation parce que quand même, les liquidités sont là, il y a l'épargne.
Alors, le chiffre vient de tomber, le chiffre de l'INSEE sur l'inflation en janvier qui remonte à 6%. Je rappelle qu'on était à 5,9% le mois dernier. Légère remontée, mais quelque part, je sais pas, vous êtes plus expert que nous, mais c'est pas si mal parce qu'on s'attendait de toute façon à une remontée de l'inflation parce que fin de la ristourne à la pompe, etc. Finalement, on passe de 5,9 à 6. Jean-Marc ?
Oui, il y a toute une partie des prix que j'appelle administrée, c'est-à-dire la ristourne qui avait officiellement...
Elle est terminée, et en janvier...
Et donc, on assiste à une décrue de l'inflation, encore une fois.
Pas énormément, 5,9 à 6, c'est pas très... C'est pas
énorme.
Une décrue. Encore une fois, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de l'inflation au sens théorique du terme. Il y a une hausse d'un certain prix, un bloc de prix, qui sont les prix de l'énergie, avec des conséquences sur les prix alimentaires, mais globalement, ce qu'on appelle l'inflation, c'est-à-dire une hausse durable et générale des prix, n'est pas au rendez-vous. Et donc, c'est pas galopant, ça n'existe pas, il n'y a pas d'inflation. Ouais. La conséquence de ça, si vous voulez, c'est qu'effectivement, il y a une décrue qui va aller très vite. Le FMI anticipe là aussi que, dans certains papiers, dès 2024, on sera redevenu aux 2% d'inflation qui sont en zone euro. Et par rapport à ça, moi, ce qui me frappe, c'est quand même que l'économie fonctionne quand même assez bien par rapport au modèle théorique. Pourquoi ? Ouais. Parce que, un, dans les modèles théoriques, quand vous avez des hausses de prix qui sont entre 2 et 8%, vous avez une légère augmentation du taux d'épargne. On appelle ça un effet pigou. C'est ce qui s'est passé effectivement en 2022.
Et vous, l'épargne, ça vous plaît?
Et deuxième élément qui est fondamental, c'est qu'effectivement, vous avez des inerties. Alors, pour revenir à l'histoire de la moteur de la croissance, normalement, la consommation est relativement inerte par rapport aux revenus. Il y a une propension à consommer qui est constante. Et on s'aperçoit, encore une fois, dans les derniers tableaux de l'INSEE et de la Banque de France, que vous avez ce mécanisme qui joue. Ouais. C'est-à-dire que, malgré une remontée de taux d'épargne, la consommation réussit à se maintenir malgré les quelques chiffres qu'on a eus. Pourquoi? Parce que la politique budgétaire a été particulièrement expansionniste. Et ça, en revanche, ça devrait se corriger assez vite.
Stéphanie, sur l'indice des prix à la consommation, on est à plus 7,7% harmonisé sur un an en janvier. Alors, la grande théorie de Jean-Marc, hein, je ne sais pas si on peut dire que c'est une théorie, mais c'est de dire qu'il n'y a pas d'inflation et que c'est uniquement sur certains produits.
Ah, c'est vrai d'ailleurs.
L'énergie et l'alimentaire, mais
13,2 sur l'alimentation et 16,3 sur l'énergie.
Donc, on ne peut pas dire.
Il y a quand même, c'est quand même les dépenses ciblées. Contraintes et ça soulève un problème pour les ménages les plus défavorisés. On l'a vu tout au long de l'année dernière et ça continue aujourd'hui. Donc il faut le message. Il y a eu des réponses qui ont été données à travers notamment les boucliers tarifaires. Encore ces pare-feux hein, qui ont permis de limiter la casse. Parce que bon, ok, on a 7, mais en Europe on a 10. Vous voyez, ouais. Donc on a quand même été capable de faire moins que les autres par les mesures qui ont été mises en place. Il n'empêche que lorsqu'on regarde la confiance des ménages, elle est encore à un niveau extrêmement inquiétant puisque c'est au même niveau qu'en 2009, au moment de la crise. Et c'est ça qui fait qu'en dépit des mesures prises, en dépit du soutien apporté aux ménages, l'inquiétude est là, ouais. En fait.
Hein. Bon, on les comprend, les ménages. Quand on décortique ces chiffres, effectivement, 6% d'inflation, 7% harmonisé, mais 13,2 pour l'alimentation et 16 pour l'énergie, la perception des ménages, c'est pas les 6%. Voilà. C'est ce qu'ils achètent dans les caddies. Hein.
Ouais, c'est ce qu'on voit bien. C'est le ressenti par rapport aux dépenses habituelles, ordinaires et contraintes. Hein. On peut pas se passer d'énergie, on peut pas se passer d'alimentation. Donc, voilà. Alors, après, c'est le fléchage, bien sûr. Sur les aides qu'il faut adresser, mais je pense aussi que la BCE a été claire, tout le monde le dit, son objectif c'est d'atteindre l'inflation autour de 2% d'ici 2024, véritablement elle va réussir, et dans ce contexte, en fait, les ménages vont retrouver un comportement habituel, parce que une inflation qui va peut-être pas à 2%, mais dès qu'elle passera aux alentours de 3, ça va rassurer les ménages, et je pense qu'ils vont reprendre leur comportement de dépenses qu'ils avaient avant cette période, cette crise énergétique.
Réunion BCE jeudi 14h, il y a aussi la fête demain à 20h, et puis pendant ce temps-là, nous on a quand même la réforme des retraites à se mettre sous la dent. Aujourd'hui, grosse journée de mobilisation, c'est la deuxième, Caroline Morisseau, on pourrait ergoter sur est-ce qu'il faut faire cette réforme ou pas. Vous êtes allé regarder si on pouvait partir quand même à 64 ans, mais avec tous ces trimestres, parce qu'on va tous globalement partir à 64 ans, on partira pas avant, c'est terminé.
On n'échappera pas à la légale.
Le sujet,
sauf
c'est
ceux
le
sont déjà partis.
Taux plein. Oui, Jean-Marc, on n'est pas concerné. Merci. Merci, c'est un autre sujet. À taux plein, Caroline, c'est-à-dire qu'on peut racheter des trimestres.
Oui, c'est ça. Ça consiste en fait à payer pour partir le plus tôt possible.
C'est-à-dire 64.
Exactement.
Sinon, on peut aller jusqu'à 67, parce que c'est l'âge de la fin de la décote.
67 ans, il faut attendre effectivement l'annulation de la décote. On rachète des trimestres. En fait, à défaut d'avoir suffisamment cotisé, on a le droit de racheter jusqu'à 12 trimestres maximum, c'est-à-dire 3 années de cotisation dans énormément de situations. En fait, si vous avez fait des stages lors de vos études supérieures, si vous avez fait tout simplement des études supérieures qui derrière ont donné lieu à un diplôme, ou encore si vous avez des années incomplète, c'est-à-dire des années où vous n'avez pas validé vos 4 trimestres. Et ça concerne par exemple tous ceux qui ont fait des jobs d'été. Donc si vous regardez votre carrière, c'est quasiment sûr, les exceptions sont extrêmement rares, quasiment sûr que vous avez moyen dans votre carrière d'aller racheter les 12 trimestres que vous avez droit de racheter.
En tout cas, quelques-uns des 12 trimestres. Ça coûte cher ou pas de faire ça ?
Alors, ça dépend vraiment de l'âge et du salaire au moment du rachat. Donc, le principe, c'est que plus vous êtes jeune, moins ça coûte cher. Et concrètement, ça coûte entre 1000 euros, on va dire, pour un jeune salarié d'une vingtaine d'années qui n'est pas très bien payé, jusqu'à 6000 euros pour une personne d'une soixantaine d'années qui est à l'approche de la retraite et qui gagne plus de 41 000 euros par an. Donc, ça peut quand même vous coûter un peu plus de 70 000 euros.
Il faut que ça soit rentable.
Vous voulez racheter 12 trimestres.
Il faut que ça soit rentable.
Il faut que ce
soit rentable. Vous avez calculé le TRI du rachat de trimestre ?
Ça peut l'être. J'ai un cas d'un expert qui nous a cité une personne à qui il manque 12 trimestres et qui est donc censé attendre 67 ans, l'âge d'annulation de la décote dont on parlait tout à l'heure, pour pouvoir partir avec sa retraite à taux plein et 3000 euros. S'il décide malgré tout de partir à 64 ans sans racheter ses trimestres, il va y avoir une décote. Il ne touchera que 2600 euros au lieu de 3000 euros. S'il rachète ses 12 trimestres, il pourra partir dès 64 ans avec 3000 euros, et on a fait le calcul, ça veut dire que en une quinzaine d'années, c'est-à-dire une période inférieure à l'espérance de vie à la retraite, il aura amorti l'opération et ses rachats de trimestres. Donc oui, ça peut être rentable. Il faut regarder, il faut faire ses calculs.
Tout de suite, ces calculs d'ailleurs.
Tout de suite, parce que plus on est jeune, déjà ça coûte moins cher quand on est jeune, et puis surtout on risque de rater un certain nombre d'opportunités si on ne se saisit pas de ces dispositifs quand on est jeune.
Bon, Stéphanie Villers, on ne va pas rentrer dans les détails de cette réforme des retraites qui va faire l'objet d'âpres débats à l'Assemblée, etc. Mais sur le plan macro, vu toutes les concessions qu'il y a déjà eues, tout à l'heure Jean-Marc Vidouré nous disait qu'on a déjà perdu un tiers des économies et ça va être sans doute beaucoup plus, est-ce que ça vaut la peine de la faire? Est-ce que macroéconomiquement elle est indispensable?
Si on regarde l'espérance de vie et le taux de fécondité, oui, parce que notre système de répartition fonctionne à partir de ces deux variables. Donc avec un taux de fécondité en dessous de deux enfants par femme, on sait que depuis, ce qui nous arrive depuis les années 70, sauf une période dans les années 2000, mais globalement, on sait que depuis cette période-là, on va avoir des problèmes sur notre système de répartition. Donc, en plus, il n'y a pas de surprise. Ça fait quand même des années qu'on essaie on fait du rafistolage pour maintenir ce système plus ou moins à l'équilibre. Voilà, c'est juste.
On est toujours dans le rafistolage là.
Bah oui, on est de plus en plus puisqu'il va y avoir vraisemblablement quelques négociations pour que la réforme puisse passer.
Et Raymond Soubine disait tout à l'heure qu'il faudrait sans doute une autre réforme en 2028, pardon, parce que ça le compte y est pas.
Voilà, pour faire passer ces mesures, on sait qu'il faut y aller vraiment à tâtons et de manière parcimonieuse. En fait. Autrement, ça ne passe pas.
Votre avis, Jean-Marc, sur le rafistolage?
Non, je pense qu'on se trompe sur l'analyse de ce qui se passe en ce moment. Encore une fois, l'enjeu, ce n'est pas de savoir si le système est équilibré ou pas, parce que le système d'État-providence est tel que maintenant, l'essentiel de ses ressources, pratiquement la moitié de ses ressources, pas l'essentiel, mais pratiquement, vient des impôts, vient de subventions de l'État. Donc, l'enjeu, ce n'est pas tellement le déficit du système, parce que ce déficit, il est calculé de façon artificielle. Le véritable enjeu, c'est la quantité de travail que dégage le pays.
Travailler plus au total.
Il faut travailler plus.
Mais ils le vendent pas du tout comme ça, le gouvernement. Très peu. Hein.
Et alors, c'est assez curieux parce que c'est les propos que tenait le président de la République au moment de ses vœux. C'est-à-dire, il a articulé son discours autour d'engagement de travail et il expliquait que la réforme des retraites, qui était conforme à son programme, s'inscrivait dans cette logique d'un retour du pays au travail. Or là, c'est un sujet qui est pas du tout abordé. Non. C'est un sujet qui est avec, effectivement, des combats sur, alors, les détails qui sont des détails où personne ne comprend finalement comment il va être traité. Je rappelle qu'encore à l'heure actuelle, la Cour des comptes évalue à un quart les personnes qui, à la retraite, n'ont pas les droits objectifs auxquels ils pourraient prétendre. C'est-à-dire que c'est tellement compliqué que les gens ne comprennent pas comment on fait pour calculer leur propre retraite, même si ça s'est amélioré. Et deuxièmement, encore une fois, le pinaillage occulte cette réalité fondamentale qui est que le pays ne travaille pas assez. Et c'est ce que nous disent d'ailleurs les organisations internationales. Quand vous regardez l'avis du FMI sur la réforme, ce que dit le FMI, c'est qu'il y a d'autres possibilités qui sont d'augmenter la durée du temps de travail, un passage aux 37 heures, une suppression d'un certain nombre de journées de congés, une réduction des congés payés. Donc, l'approche, il y a une approche, je dirais, qui est une approche économique, et puis il y a une approche politique et symbolique qui est à côté de l'approche économique.
Et il y a même une approche émotionnelle, figurez-vous.
Exactement, en plus.